Radio Grand Ciel Chartres, bonjour. Émilie, Simon et Caroline présentent dans le chemin du milieu le sac du palais d'été. Une ambassade anglaise en la personne de Lord Macartney, envoyée en Chine par la couronne britannique en 1793 afin d'établir des relations commerciales, eut pour réponse de l'empereur Qianlong « Nous n'avons besoin de personne. Retournez chez vous. Reprenez vos cadeaux. » Un autre essai diplomatique en 1816, mené par Lord Amherst, fut congédié par ces mots de l'empereur Tianqing. La cour céleste ne tient pas pour précieux les objets venus de loin et toutes les choses curieuses et ingénieuses de votre royaume ne peuvent pas non plus être considérées comme ayant une rare valeur. Chaque Chinois ne voit dans le comportement européen que des aventuriers qui, par amour de l'or, ont quitté leur patrie et le lieu où reposent leurs ancêtres. De là, les mesures exceptionnelles, injustes, injurieuses. De là, ces entraves de toutes sortes et ces résistances sans nombre par lesquelles le gouvernement chinois tend à paralyser tout commerce venant de l'extérieur, pestifère les Anglais. Mais cette fois, en l'an de grâce 1860, ces mêmes ambassades iront jusqu'à Pékin et ne signeront que dans la capitale de l'Empire du Milieu un traité qui aura pour conséquence d'augmenter dans ces contrées éloignées la puissance des deux grandes nations alliées et d'établir d'une façon permanente de nouveaux marchés ouverts à toutes les nations du globe, assure le comte Charles de Mitrécy. Tout pays étranger à la Chine est barbare. Et par là même un pays vassal. L'impérialisme anglais ne put le supporter, et voulant être traité d'égal à égal, ils refusèrent même l'étiquette, s'écraser le front sur le sol devant l'empereur de Chine. Fallait-il que leur bateau arrive vide à Canton, alors qu'ils remplissaient les cales de thé, de porcelaine, de rhubarbe, de soie, qu'ils achetaient à bon prix, tandis que les diplomates avaient tenté d'ouvrir la Chine par la porte sans succès, les contrebandiers de la drogue entrèrent par les arrière-cours. De l'intérieur, ils défoncèrent toutes les ouvertures, écrit l'imperfite. Le commerce clandestin redressant la balance commerciale déficitaire de la Compagnie des Indes orientales ruinait peu à peu la Chine, voyant ses lingots d'argent s'engouffrer dans le commerce de l'opium. Sur un édit, l'empereur interdit l'opium et Lin Zexiu envoya ce message à la reine Victoria. Vous interdisez strictement l'opium chez vous. Vous ne voulez pas qu'il nuise à votre pays, mais vous faites en sorte qu'il nuise à d'autres pays. Pourquoi ? L'opium est produit dans vos possessions indiennes. Détruisez vos plantations de pavots et remplacez-les par des cultures vivrières. Les cargaisons d'opium des bateaux anglais furent détruites, provoquant la première guerre de l'opium qui se solda en 1842 par le traité de Nankin, qui, au dire des Anglais, ne fut jamais respecté par les Chinois. En 1843, les Américains signèrent le traité de Wangxia près de Macao, s'engageant à lutter contre le trafic d'opium avec les mêmes avantages commerciaux que l'Angleterre. En 1844, Louis-Philippe signa le traité de Huangpo, un petit port sur l'embouchure de la rivière des Perles qui baigne Canton, reconnaissant l'exercice du culte catholique dans les cinq ports ouverts du traité de Nankin. Trois traités iniques, dira François Léger, dont la conclusion laisse dans la conscience chinoise les germes d'une volonté de revanche qui ne fera que croître avec les générations et puisera sa force dans le ressentiment que suscite le souvenir d'une humiliation. À Londres, Thomas Staunton, qui avait accompagné l'ambassadeur McCartney en tant que page, invective les parlementaires. « Avons-nous contrevenu aux lois intérieures en pratiquant le commerce de l'opium ? Non. Prenons garde, la considération que nous perdrions en Chine, nous ne serions pas longs à la perdre en Inde et de proche en proche sur toute la terre. Elle aura des répercussions incalculables. Nous n'avons pas le droit d'y renoncer. » La deuxième guerre de l'opium fut votée. Lord Palmerston, ministre des Affaires étrangères en charge du commerce extérieur, enthousiaste, s'exclama. Donnons à la Chine une bonne raclée. Les cinq ports ouverts, l'île de Hong Kong et les indemnités des caisses d'opium détruites ne leur suffirent pas. Les Anglais voulaient les forts de Daegu, qui protégeait Tientsin, une ville portuaire très active à une quinzaine de kilomètres de Pékin où se croisent la rivière Pei et le Grand Canal. Ils veulent la libre circulation dans tout l'Empire, retrouver le commerce et la légalisation de l'opium, et cette fois sans devoir payer à la confrérie Hong une taxe sur les marchandises. Ils veulent des légations à Pékin. Ils veulent aussi la révision de ce traité de Nankin, celui de la paix éternelle. Comment le traité de la paix éternelle n'a-t-il pas été honoré ? Surpris est l'empereur de ne pas avoir eu connaissance de la situation. Furieux, il disgracia ses ministres. Les deux mandarins qui ont adopté les idées des barbares de l'Occident ont trompé mon père en lui faisant accepter des traités, qu'ils soient dégradés comme traîtres et criminels au premier chef. Pour l'empereur, dit le père Vieillère, il s'agissait d'un moindre mal qui réglait un problème jugé extérieur, périphérique, donc sans conséquence et qui n'engageait presque rien. Il est évident, continue-t-il, que le but du gouvernement mandchou est de dégoûter les Européens et de rompre avec eux. Et l'empereur, bien plus préoccupé par le soulèvement des Taiping, qui mettait en danger la dynastie mandchou, en resta là. En revanche, continue le père Vieillère, pour les Européens, qui fondaient toute leur expansion internationale et commerciale sur ce genre de documents, représentait une première et décisive avancée. Fallait-il alors s'allier avec les Taiping dont la rébellion semblait être sur le point de renverser la dynastie Mandchou ou avec le gouvernement Mandchou ? Finalement, la proie pour l'ombre étant plus sûre, les Anglais fournirent des armes aux Tartares pour mettre fin à la révolte. Mais l'arraisonnement de Larrow, bateau britannique battant pavillon de Hong Kong, sous prétexte de contrebande, fut le détonateur des canons anglais qui, n'obtenant pas d'excuses, bombardèrent Canton. La population indignée brûla les factoreries. Selon François Léger, le gouvernement de Canton ne connaît rien du monde extérieur, ne se fait pas la moindre idée des forces qu'il affronte. Il s'imagine que les Européens se lasseront, qu'un mélange d'arrogance et d'ajournement suffira à cet effet. Toujours méfiant face aux étrangers et surtout aux missionnaires, n'était-ce pas à cause d'eux que s'étaient regroupés les adorateurs de Dieu sous le nom de Taiping, la Grande Paix, les chrétiens furent persécutés et torturés à mort. Il eût suffi que le père Chapdelaine subisse ce sort pour que Napoléon III s'alliât à la couronne anglaise et entrât dans cette deuxième guerre de l'opium. L'honneur du drapeau français, le rang que cette puissance occupe dans le monde, lui traçait sa conduite. L'expédition de Chine fut résolue, écrira Léopold Palus. Mais aussi, s'associer à l'Angleterre, c'est la contenir et la contraindre à partager ses profits. Il devenait nécessaire aux puissances occidentales d'avoir accès aux ports du Nord et à la capitale de l'Empire. Que de prétextes n'était-il pas facile pour intervenir, soit diplomatiquement, soit militairement, affirme Henri Cordier dans son Histoire de la Chine. Thank you. Les Français larguèrent les amarres à Toulon, doublèrent le cap de Bonne-Espérance pour rejoindre les Anglais, déjà arrivés à Hong Kong, venant du Bengale, faisant l'admiration du général Collineau. Cette faculté d'expansion de la puissance britannique est une des choses qui frappe le plus lorsqu'on parcourt le monde. Plus on s'éloigne de l'Angleterre, plus on la retrouve présente. La route que nous suivons semble n'être que le prolongement d'une voie anglaise dont le commencement est en Grande-Bretagne. Ils sont les maîtres du commerce, du trafic maritime. La facilité avec laquelle ils se rendent aux points du globe les plus éloignés de leur patrie est stupéfiante. Les Français, pas très organisés, se procurèrent des chevaux au Japon qu'ils durent dresser tant les pauvres bêtes étaient devenues sauvages dans les cales des bateaux qu'ils acheminaient à Hong Kong. Fin prêt, le baron Gros, ambassadeur de France, dépêcha une missive optimiste à Napoléon III. Il est désormais hors de doute que notre voyage à Pékin s'accomplira pacifiquement et sans entrave. Confiants, les ambassadeurs pourront donc remettre les lettres de créance à l'empereur de Chine et accompagner de la flotte franco-anglaise, le cap fut mis vers Tientsin. Mais les Chinois virent d'un très mauvais œil tout ce déploiement militaire pour une mission diplomatique. Et l'empereur publia un édit. Les barbares anglais et les barbares français s'étant joints à eux pour mal faire, le crime de ces deux nations mérite plus que la mort. Les conseillers nous poussent à faire montre de sévérité, à tirer sur les rênes si fort que leur perversité sauvage soit réfrénée efficacement. Depuis 1841, ces barbares nous cherchent querelle et nous accablent d'avanies. Cependant, l'empereur défunt, plein de charité pour tous les hommes venus de loin, n'a pas pu se décider à les châtier comme il en avait le droit. Il leur permit de faire commerce dans 5 ports et leur donna de l'argent pour les satisfaire. Les bienfaits dont il combla ces étrangers furent considérables. Si ceux-ci avaient eu quelque conscience, ils auraient su bon gré à l'empereur de ses bontés, auraient tâché de gagner leur vie en paix, auraient accommodé les différends à l'amiable avec les autorités locales. Loin de là, ils se sont montrés insubordonnés et méchants à l'extrême. Ces gens-là sont pour notre pays un venin qui le tue. Ils empiètent sur nos frontières et commettent toutes sortes d'horreurs. Si nous montrions notre puissance, en un moment, nous aurions pulvérisé ces fantoches. Mais nous nous souvenons que c'est par la bonté et la libéralité que nos ancêtres ont civilisé et enrichi les tribus sauvages. Si donc ces barbares changent de conduite et rentrent dans l'ordre, nous les traiterons avec bénignité. Mais s'ils s'obstinent dans leur perversité et continuent à montrer des exigences insensées, nous les anéantirons si bien qu'il ne restera pas un rejeton de leur race. Barbares, certes, les Européens l'étaient aux yeux des Chinois, qui malheureusement pour eux n'évaluèrent pas le degré de leur barbarie à l'avancée technologique de leurs armes. Tientsin est protégé par des forts. Les Chinois proposent aux Alliés de débarquer un peu plus au nord, à Peitang, pour regagner Pékin par la terre. Ainsi commençait la guerre, commente Pierre Le Gorce, guerre fantastique par l'éloignement et surtout par l'imprévu. Car tout était nouveau sous nos yeux, et cette côte naguère ignorée, et cet immense empire qu'aucune armée européenne n'avait jamais foulé, ce Peitang Ho que les cartes révélaient à peine. Contrariés, les alliés se soumirent aux ordres impériaux. Les flottes mouillèrent à Peitang. Mais furieux, sentant la ruse, vexés et têtus, au fort de Taku, qui protège Tientsin, le capitaine de frégate Tricot, chargé de diriger l'opération, se jeta en avant avec la plus grande intrépidité et, suivi par ses troupes, atteignit sous une grêle de projectiles les fossés des forts. Épuisés, haletants, plongés dans la vase jusqu'à la ceinture, officiers et soldats durent renoncer à les franchir, témoigne le colonel Dupin, et tous réintégrèrent les bateaux qui mirent cap sur Shanghai pour délibérer comment infliger au gouvernement chinois le juste châtiment qu'il mérite. C'était un échec, et cet échec détruisait en un jour, en une heure, le prestige glorieux des armées alliées sur ces côtes lointaines. Il ne fallait pas se le dissimuler. C'était une nouvelle guerre à recommencer, dans laquelle des moyens d'action beaucoup plus énergiques devront être mis en œuvre. C'est alors que les Alliés déclarèrent ouvertement la guerre à la Chine et remirent cap vers le nord. Si loin de la patrie, le caractère inconnu de l'expédition exerçait sur les esprits une influence mystérieuse à laquelle le spectacle grandiose de la mer mêlait un sentiment de force et de confiance. Plus de 200 bâtiments de guerre et de transport, reflétant les feux sur les eaux pendant la nuit, présentaient l'aspect d'une grande ville arrêtée au milieu des flots, s'exalte le général Blondel. Le lendemain, les troupes débarquèrent. Palu nous raconte que chaque bâtiment fait accoster ses chalands, chaloupes, canots. De longues files de soldats descendent les échelles des navires et remplissent les embarcations. On voit de tous côtés des chevaux enlevés vers le bout des vergues, s'abaissent ensuite lentement pour arriver dans les chalands qui les attendent. Tout est en mouvement sur la rade. Ce fut un étrange et superbe spectacle qui dut étonner grandement les Tartares, silencieux, la main au carquois, que celui de cette multitude armée qui, semblable au flot de la tempête, avançait vers eux, raconte Bazincourt. Les Alliés abordèrent finalement la ville de Beitang, une cité émergeant des marécages qui, d'abord semblant désertée, leur offrit au fur et à mesure de l'avancée l'affreux spectacle d'enfants étranglés, de femmes égorgées, de gisants jaunes d'opium. Plutôt que de subir les barbares, les Chinois avaient préféré se suicider. Nos soldats pillent ferme. L'artillerie et les chasseurs à pied s'abstiennent, d'autres peu, d'autres à mort. Quant aux Anglais, leur réputation est faite depuis longtemps. Ce sont nos maîtres. On ne trouve pas un clou là où ils sont passés. Nos troupiers se promènent en robe de soie et bonnet de mandarin. Empêchez-les donc. Ils ont déniché un monde-piété, regorgeant des faits de toutes sortes, témoigne Armand Lucie. Quant au régiment du Pendjab, dont les troupes à demi sauvages envahirent les maisons dès leur arrivée, enfoncèrent les boutiques et se livrèrent aux plus affreux pillages et outragèrent les femmes. Cela devenait un cauchemar devant lequel s'envolaient à tire-d'aile nos rêves de poétique conquête et d'aventure originale, se désole Hérisson. Thank you. L'empereur a appris avec étonnement que des soldats et des matelots français et britanniques avaient débarqué à Peiteng le 1er août, qu'ils avaient pris la ville, chassé ses habitants inoffensifs et occupé les forts qui ne contenaient pas de garnison. Dans sa magnanimité, l'empereur consent cependant à oublier tous ces faits et que si, avant 3 jours, les deux ambassadeurs acceptaient de rencontrer les mandarins qui allaient être nommés pour traiter avec eux, on pouvait éviter de part et d'autre bien des malheurs, que les troupes alliées devaient retourner sur leurs navires et les ambassadeurs aller à Pékin pour y procéder à la ratification des traités de Tientsin, pendant que de leur côté les forces chinoises, campées dans la plaine du Peiteng, seraient enfermées, ce qui rétablirait la paix et pour toujours entre la Chine et les deux puissances alliées, exprimait la dépêche envoyée par Heng Fu, le gouverneur de Chili. Car leurs troupes excellentes sur mer ne pourraient lutter contre les innombrables armées impériales. Qu'une seule défaite plus complète encore que la première les attend si la lutte s'engage. Les alliés d'un commun accord peu ordinaire levèrent le camp, sûrs que le succès n'est plus douteux pour personne. Mais il faut que Tagu soit enlevé, la rivière rendue libre, Tientsin occupée par nos troupes, pour que le gouvernement chinois comprenne enfin sa position et se décide à traiter, écrit le baron Gros à Paris. Sur ce, les alliés faisant fi de l'avertissement de l'empereur, les Chinois sont décimés par leurs canons. La voie dégagée, ils continuèrent d'avancer, construisant des ponts au-dessus des canaux et des rivières, sous quelques jets de flèches jaillissant de jonques amarrées, que les canons anglais tirés par des poneys réduisaient au silence, pour enfin arriver à Tangkou, accueillis par les obus chinois. Escaladant les remparts, brisant les portes à coups de hache, les alliés faisant fuir les habitants, les mandarins se coupaient la gorge. Ce ne dut pas être si facile, car la résistance des armées impériales fit l'admiration des alliés. Je ne sais pas ce que nous réserve la suite de cette campagne, mais je me demande ce que feront ces gens-là lorsqu'ils seront bien armés, constate le général Montauban. Il ne manque à ce peuple qu'une bonne direction et un peu de science, renchérit le capitaine Béziat. Vous tous, messieurs, qui les avez vus, que ce sont des lions, de vrais lions, mais quel courage, quelle fougue dans l'action, c'est admirable. Les pertes humaines sont importantes des deux côtés. Les officiers alliés mettent en garde leurs soldats. Un seul fort est tombé, il en reste 4 qui sont bien armés. Ils seront défendus avec la même énergie que le premier. Au deuxième fort, 2500 Chinois sont faits prisonniers et les alliés demandent la reddition des autres forts à Heng Fu qui se voit dans l'obligation de capituler. Sous la pluie battante, Anglais et Français regardent avec satisfaction se hisser les drapeaux blancs, tandis que les bannières mandchoues descendent. Ce jour-là, il s'en fallut de quelques heures que la pluie ne fit avorter la glorieuse expédition de Chine, écrit Hérisson. Et sous le regard interdit et déshérité des Français, le drapeau anglais flotte au-dessus de Tianjin.
Saïgo est une jonque chinoise, mystérieuse et sournoise, qu'on ne connaît pas le nom. Mais le soir on entre bon, quand la nuit se fait complice, les Européens se glissent, cherchant des coussins profonds. Opium, poison de rêve. Au paradis, à Le bonheur n'existe pas sur la terre, que l'île de mes chimères puisse nous conduire ailleurs, au paradis enchanté, plein de merveilleux mensonges, dans l'ivresse de mes songes.
Oh, tu viens, vois son rêve.